continue to tune in to CKUT 90.3 FM on your dial. Oh, Eric Donaldson says so. Sing, tune in.
Hey yo, this is the Narcissist, the Euphrates, Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
What's up? This is Kid Koala. You're listening to CKUT in Montreal, 90.3 FM.
Hello to you all and welcome to Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next 30 minutes. On today's show, we'll all be hoping for a clear sky on April 8th, trying to catch a glimpse of the total eclipse of the sun, saying whoosh to the clouds.
So there will be a last ever total solar eclipse in about 600 million years or so. In another, 600 million years, the moon will have moved further away, and so it won't be big enough to block out the sun. We'll get partial eclipses, and we'll get annular eclipses where you get a ring, but we will never again get a total eclipse.
Millinery artist introduces hat making in the eastern townships.
So that's what we milliners do. We do like headpieces and headwear in by hand and take lots of time. We don't do series of stuff. We just do mainly unique pieces. So that's the difference between a milliner and a hat maker, let's say. The sculptor for the head.
In Ontario, the Alora Center for the Arts gets an extra $1.2 million in government funding.
Our target is to break ground in the fall of 2024. Ironically, we're kind of not even haven't gone fully public with the fundraising yet. We're still meeting with businesses.
And we're celebrating the 100th episode of Viewpoints with our journalists from all over the country. They'll drop in from time to time to tell us how they feel about radio journalism and their special part of the country. Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Well, thanks for keeping us company. It would not be the same without you. April 8th is going to be a special day in New Brunswick and in many parts of eastern Canada as a rare total eclipse of the sun will darken the daytime sky. The town of Sackville, New Brunswick, won't be in the path of the 100% totality for the eclipse, although residents will have one distinct advantage for observing this astronomical event, Mount Allison's Gemini Observatory. Journalist Erica Butler stopped by the observatory last week to meet with Associate Professor Catherine Lovkin to find out more about what to expect on April 8th.
So we're here at the Mount Allison Gemini Observatory, which is going to be open for the solar eclipse, and we're checking out what the sun looks like today.
All right. People may have seen the sign for Gemini Observatory. Tell me what we're looking at in here. What is it? So we're in a little tiny little dome-shaped building.
Yeah, so we're inside one of our two domes. They're both exactly the same. And they have 11-inch telescopes in them. And we use them mostly for students. So the students come and do projects or observations for courses. But we also have a lot of public outreach. We have observing nights on the first and third Thursdays, if the weather's good. Of course.
Yeah, you need a clear sky.
You need a clear sky, yes.
You know, this solar eclipse, this total solar eclipse that's coming up is a rare event, and that's maybe even an understatement. Tell me about it.
So that is an understatement. The last total solar eclipse that was visible in New Brunswick was in about 900 AD, so it's been more than 1,000 years. So this is a really, really exciting thing. Unfortunately, here in Sackville, we're not quite in the path of totality. We're just outside. So we're going to get about a 99% total eclipse, which means it's still going to be amazing and really cool to see, but we're not going to have that period when the moon is completely in front of the sun. It blocks out enough of the sun's light that you can see the corona, which is the hot gas sort of in the upper part of the atmosphere around the sun. And that won't be visible here, but it's still going to be a really cool event to see. It's going to get dark. Of course, the sun's going to be blocked. And so we're going to have a lot of those effects, and it's just going to be really fun I'm very excited.
So will you be here at the observatory for that day? What will be happening?
So we're going to have the observatory, weather permitting, of course. We're going to have the observatory open from about 3 or 3:30 until 6, which should cover most of the eclipse. And we'll have both our telescopes set up. We have solar filters that we can use so that you can actually look through the telescope and see the sun. We're going to have eclipse glasses available. We're hoping to set up some of our portable telescopes to project the eclipse so that you can look at it safely. And so there should be lots of different ways for people to see the eclipse. It's really important that you don't look directly at the sun. Even when it's 99% covered, it can still damage your eyes.
This is the thing, I guess. I mean, usually, like, I just looked out that window today and my eyes were immediately averted. Like, I couldn't possibly look at the sun. But during an eclipse, you can sort of stand to look at it, but it still is not a good idea.
It is still definitely not a good idea. Yeah. Because the light is blocked, it doesn't trigger that pain reflex in your eyes. And so you don't immediately look away, but it's still bright enough to damage them.
Okay, you have to use your rational brain, not your instincts.
Yes.
On solar eclipse days.
Absolutely. Rational brain.
Okay. Now just run through exactly what's happening in this. This is a solar eclipse, not a lunar eclipse, but just tell me exactly how things line up and how this is happening.
So this is a solar eclipse. So the moon is passing between us and the sun. And it's just a coincidence that the moon and the sun have about the same angular size on the sky. And so the moon completely blocks out the sun if you're in the right spot. So the moon is big enough to block out the sun, but the sun is so much bigger that the moon only casts a small shadow on the Earth. And so if you are in that shadow, you see a total eclipse. If you're in that really dark area, everybody else in the outer parts of the shadow sees a partial eclipse, which is what we're going to get. And if you're not in the path of the shadow at all, you don't see an eclipse at all. And that's very different from a lunar eclipse, because with a lunar eclipse, anybody who can see the moon can see the lunar eclipse. So the shadow sizes are very, very different.
Oh, interesting. So lunar eclipse is a more sort of global event. It's shared by more people, but this is very regional. It's like, it's special for us and everyone else in the path of totality.
Yes. Yes. So we're getting, you know, people in Eastern Canada are really excited. People in Ontario are really excited. I don't think the people in BC care at all, because they're not going to be able to see even a partial eclipse. So,
I mean, what do you think? I mean, this must be kind of a good learning experience for your students. I mean, are they like, you know, will this parlay into, does it get the astronomy students excited at Mount A?
I think so. Yes. I know the optics class is considering doing a field trip because Fredericton will be in totality. I think Shediac is in totality. Miramichi is right in the center of the eclipse. So if you're in the Miramichi area, you get the maximum period of totality. So they're doing a field trip, but most of the astronomy students, I think, are sticking around. I'm hoping to rope them into helping out here because I'm expecting big crowds for the eclipse. I'm hoping for big crowds at least.
Well, we do know that the Anglophone East School District is dismissing students early in time for this eclipse. I guess they don't want to manage the don't look at the sun. They want to put that, you know, they want parents in charge of making sure that that doesn't happen. So, yeah, it seems like there could be a lot of people in Sackville on the loose that day looking for ways to safely view.
Yes, and I really want everyone to be able to safely view the eclipse. I don't want anybody to feel like they're locked inside because they don't know how to watch it safely. So absolutely, you know, do your research, find eclipse glasses, build a pinhole camera. It's really easy to find a way to watch the eclipse without damaging your eyes.
And so tell us, give us the details of when this is happening so people can mark their calendars.
So it is a Monday, April 8th, and it's in the late afternoon. So I think the eclipse starts around 3:30 and will be pretty much done by about 6 o'clock. So it's a really good time, you know, after work, after school.
Any more cool eclipse facts?
So there will be a last ever total solar eclipse in about 600 million years or so. Because of tidal forces, the moon is actually moving away from the Earth at the rate of a couple centimeters a year. in another, 600 million years, the moon will have moved further away. And so it won't be big enough to block out the sun. We'll get partial eclipses and we'll get annular eclipses where you get a ring, but we will never again get a total eclipse.
And that's in 600 million years?
Yeah. So, we've got a few eclipses to watch in the meantime.
Okay. Sounds great. Thanks so much, Catherine.
You're very welcome.
This is Erica Butler in Sackville, New Brunswick, competing with the sound of Via Rail's The Ocean as it winds its way through the Tantramar Marshes. Local journalism at its best helps to build trust and understanding between the people that live together in their own corner of the world. And local radio helps us be heard in our own voices and hear our own neighbors tell their stories. Here's to 100 episodes of Viewpoints.
Follow us on X at CanadaLJI and listen to all our stories on frequencynews.ca.
The Northwest BC Resource Benefit Alliance has been advocating for revenue sharing between local governments in the region. Well, a few days ago, a five-year, $250 million agreement was reached for the Northwest communities in BC. Sean Bouchetas, a Terrace Mayor and RBA co-chaired regional district of Kitimat-Stikine, expressed his excitement about the agreement and the opportunity to build more livable and attractive communities in the Northwest. A funding model for distributing the funds will be worked out with the provincial government in the future, with a focus on addressing critical infrastructure needs and revitalization projects. Advocacy efforts and lobbying played a crucial role in securing the agreement, Bouchetas said, as negotiations were held between the BC Premier and provincial government officials as well. Collective revenue sharing is important as the impact of industry stretches across the region, Bouchetas said, and communities often experience the impacts without seeing the revenue. Sabrina Spencer is in Terrace, British Columbia. She spoke with Terrace Mayor Sean Bouchetas.
Yes, the Northwest Resource Benefit Alliance is a collection of municipalities and regional districts from Vanderhoof to Maffitt, 18 municipalities, 21 governments altogether. We have been lobbying the provincial government for 10 years for a resource revenue sharing agreement with the province, something similar to what they have up in the Peace region. The Peace Regional District receives $50 million annually for just the Peace Regional District, and you see communities like Dawson Creek getting $16 million a year for infrastructure, Fort St. John getting $23 million a year for infrastructure, and the only granting that we get is the stuff that we apply for, and it's on a year-by-year basis, and the stuff that the Peace is getting is ongoing. With all the economic activity in the north, especially in the northwest, like in this area, when you look at all the projects that are going on, as well as proposed projects, 85% between projects being currently built or proposed in this province are in our regional district. And so there was a very strong case to get a revenue sharing agreement done. And, we've been lobbying hard over the last little while. Spent a lot of time having conversations with the premier about this and Minister Kang. And we finally were able to drive this thing home and get it into the budget this year. So we are going to see $50 million annually for the next 5 years between all those local governments, which is a really good start to a long-term agreement. It's probably not exactly what we wanted, but it's a really good start.
Okay, and so 10 years for this to happen, why do you think it's taken so long?
It was hard to get attention of the government in the beginning, and just a bit of a time frame for me is I joined as a co-chair in late 2018, well, 5 years ago, and we had myself, Lee Brain, and Shane Brenner, mayors of Houston and Prince Rupert at the time, we took over as co-chairs, and we kept plodding along with this, but we really cracked the nut a bit, per se, with Premier Horgan in 2018. I remember back that we were in Prince George, the city of Terrace, and was able to get a breakfast with Premier Horgan, and we spent an hour just lobbying with him and talking to him about how important this was. And then a couple months later in the spring, the Northern Capital Plan, the first intake of the Northern Capital Planning Grant came out, which is $100 million for communities, for, I think, in the regional district as well as Fraser Fort George. And then in September of 2019, Premier Horgan at the UBCM convention committed to getting a revenue sharing deal done with the Northwest. We were then fortunate enough in 2020 to receive another $50 million in the Northern Capital Planning Grant again. And then, of course, COVID hit. And I think when COVID hit, everything slowed down, including negotiations with the RBA. And it kind of fell a bit off tracks for a little bit there. But then in 2022, in September at UBCM convention, we signed a memorandum of understanding with the provincial government to get a deal done. And here we stand today.
Why do you think the revenue sharing seems to come across better through the government than just the city of Terrace alone or the city of Rupert alone and et cetera?
As a collective? Well, because I think the impact of industry stretches across our region. I think some communities are obviously impacted more than others. I think Terrace is one of those communities that's really impacted by industry and the community itself does not see much gain from it. The residents and commercial do, but the community just sees impacts and not actually revenue from it all. So I do think Terrace is a bit different than some of them, but I think all of the communities along the corridor, you know, feel impacts of industry but don't see revenue from it. So I think the province recognizes that, and that's why we've come to the point we're at.
Obviously, this announcement just came across our desk today. Any
yep.
idea when the city of Terrace will see any of this funding, how soon that would be?
I think now we have to work with the provincial government to make sure we've got an equitable funding model. And that work is going to be expedited, and we're going to try to do that as fast as we can. But I'm hoping within the next few months. It'll probably be sometime after April, you know, if the budget actually kind of starts then. So I'm hoping really early into the spring we see revenue so we can hopefully not miss a build cycle and get that money out the door.
For yourself, do you have like a wish list?
The reality is in Terrace is we have a real shortfall in critical infrastructure. So we've got a lot of work to do that's in the ground. That's not pretty stuff, but that stuff needs to be done. So that will definitely be priorities of ours. But, you know, there's some revitalization that we'd like to do too. You know, the BIA just put forward a proposal to redo the 4600 block as the downtown core. And quite frankly, it'd be nice to spend some money in our downtown and get not just the 4600 block spruced up, but more of it. So this is the kind of projects this money's for. But just to really put it into perspective, you know, we pave one road a year, usually one major road project a year, rebuild the whole thing. And with this kind of money, we might be looking at being able to do 5 to 7 road projects now.
Is there anything else you'd like to share or add at all today?
We are just super excited and super happy to finally get this thing done and look forward to seeing what the funding model looks like and spreading the wealth across the Northwest and building our communities better to make sure that we're more livable and more attractive for people.
This story is brought to you in partnership with the Local Journalism Initiative of Canada. You can see the full story at frequencynews.ca.
Hey, I'm Scott Onishchuk in Nelson, BC. To me, what's great about radio is it gives people in small communities a chance to stay informed and connect with local organizations doing great work. There's little to no TV coverage in these small communities across Canada, and not many people regularly consume print media anymore. Radio lets people know what's really happening in our small towns.
I've been with the Local Journalism Initiative since 2020, and I gotta say, hearing the stories and sharing news from across the country with my fellow journalists has been inspirational as a small town reporter. Smithers is known for epic land battles, intense outdoor enthusiasts, and of course, Grammy Award-winning artist Alex Cuba. And I've been proud to share those stories through the LJI. Pamela Hassan, Smithers, BC.
When you look at neighborhoods like the downtown east side, it is the oldest neighborhood steeped in historical significance. It is only about 30 to 40 blocks square max, but on a daily basis, it demonstrates complex social issues, including addiction, homelessness, life and death matters, poverty, mental health challenges, and sex work. But most importantly, it is a neighborhood known for its sense of community with love and care, activism, and the arts. I'm Bernadine Fox, coming to you from the unceded traditional territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh nations here in Vancouver, BC.
I think journalism can be a powerful tool to help showcase the concerns and opinions for our community. Local journalists are the voices for their communities, digging deep into the issues they know are important for their listeners. Lauren McKenzie, Nanaimo, British Columbia.
Ian Gregg in Prince George, BC. Our community is situated at the confluence of two major rivers, the Nechaco and the Fraser, which served as transportation routes for thousands of years before any roads came in and before any rail lines were laid down. We're an outpost where people have gathered for countless generations, and there is no one who can tell our stories but ourselves. Journalism as we know it is a documented extension of that. There are no entities in British Columbia outside of our community that will keep us up to date about what happens in our region.
Imagine that's only part of her BC team doing great work to give a voice to their communities. So happy you're with us.
Do you have questions or comments? Our email is radio@frequencynews.ca.
You're listening to Viewpoints with Boris Sassang.
Millinery artist Natalia Becquero just opened her first boutique in Knowlton, Quebec. Her goal is, of course, to share her creations with townshipers, but also to play her part in preserving the rare craft of hat making. With her new studio in the village, Becquero said that she wants to connect with the hat lovers and enthusiasts in the area and express the importance of the trade, especially during a time where hat making and millinery is kind of being forgotten. Hear part of her conversation with Taylor McClure.
I'm a costume designer. That's how I started my journey as an artist, like as a professional artist. And when I moved to Canada, I wanted to work for Cirque du Soleil. That was my biggest dream, was to work for Cirque du Soleil. I ended up kind of making my way in, but I got offered to work in the hat department at this subcontractor for Cirque. She was in charge of making the headpieces for some shows, and I got a job because I was very good doing things by hand, and it was like love at first sight. And then I just decided to continue my path because it was absolutely amazing techniques, and just, I don't know, as I said, it was a love at first sight. And then I just ended up making it my trade. As milliners, we create hats. We were like hat makers as well, but okay. We are other stuff. We create things for the hat, like headwear in general, structure hats, made by hand and manipulating other materials than felt and straw. So that's what we milliners do. We do like headpieces and headwear in like by hand and take lots of time. We don't do series of stuff. We just do mainly unique pieces. So that's the difference between a milliner and a hat maker, let's say. Sculpture for the head. I love doing research. So I love researching new materials. I love researching like thematics as well. Like, I don't know, inspired by something that I'm living at that moment. Or if I'm doing a custom piece, I like to know a lot about the person that is getting it done. So it's a really, as I go, I develop my own creative process, but I love that I get to learn all the time. I collaborate with local artists, illustrator artists, and for my fabrics, or I work with other milliners as well for the show business to develop other techniques and or include other new techniques that I don't have, or like new techniques of like 3D printing or more technological stuff. I also like that. I like the basic like antique techniques, but I also looking forward for the technology to come into my world, you know?
Yes.
And I also collaborate with artists and communities locally, but I'm Colombian originally, and I want to keep that always in my work. Okay. So I collaborate with a community of artists and weavers in the south of Colombia. It's a very close collaboration since I've been working with them for the past 10 years. Mm-hmm. And it's been actually great to have that. So it was a very amazing to see how much people loved hats and how hats made part of their lives so closely. This is just like, I needed that just to be sure that I am where I have to be.
Thanks to journalist Taylor McClure. So Natalia Becquero's studio will now be competing with hat makers Alex Surprenant and Mélodie Lavergne, who founded Fumille 3 years ago in the nearby town of Frillishburg, Quebec, some 35 kilometers away.
You're listening to Viewpoints.
So one of our journalists working out of the prairies is Ryan Hunt. He's been with us for quite a while now, and when he was asked to send something in for this 100th episode of Viewpoints, he decided, well, we should learn more about the weather.
So the weather in Alberta, it can change on a dime. I've lived here my whole life and I can confidently say that I've seen it rain, hail, and snow all within a 24-hour time span. But there is one thing to Alberta that's actually pretty unique. In the winters, we get things called Chinooks, where warm Pacific air drifts over the mountains and into the prairies. So in Calgary, it can get up to plus 10 in February for almost an entire week. But in Edmonton, Chinooks are non-existent because the city is so far away from the mountains, whereas Calgary is right on the mountain's doorstep. So while it's almost plus 20 in Calgary, it can be almost minus 20 in Edmonton. At least in Edmonton, we can go hang out at that pretty cool mall that we got, so I guess it's okay. I'm Ryan Hunt, reporting from Edmonton, Alberta.
Hello, I am Aisha Mian from Windsor, Ontario. Windsor is a city filled with so many passionate individuals with hundreds of stories behind each of them. And local journalism, it gives me a chance to uplift these stories, especially from those communities that aren't normally heard. And with Windsor having a fairly diverse population and a growing diverse population at that, being able to share the voices of just really inspiring individuals, it becomes even more important. So it's just a very fulfilling thing to be able to do so through radio journalism. I'm so glad that journalism has given me an opportunity to both hear and share the stories that my fellow Windsorites have.
One of the most interesting facts about Amherst Island in Ontario is that legend has it in 1823, the island was won in a game of cards. Amherst Island is also home to one of the most significant concentrations of historic dry stone walls anywhere in Canada. The island joined the township of Ernestown and the village of Bath to form Loyalist Township in 1998. I'm Ted Evans on Amherst Island, Ontario.
We now turn to Ontario, where the Elora Centre for the Arts got a big boost last week when they were given just over $1.2 million as part of the Canada Cultural Spaces Fund. The funding will help the Arts Centre with a planned expansion that Executive Director Lyon Carter says is aimed at being more accessible and serving the community at full capacity. Carter says fundraising for the project has reached $3.4 million without even going fully public yet. They hope to break ground in the fall of 2024. Riley Gillespie-Wilson is in Fergus, Ontario. He spoke with Carter on the heels of the funding's announcement.
It was a milestone moment for the Elora Center for the Arts when they secured just over $1.2 million in funding from the Canadian federal government as a part of the Canada Cultural Spaces Fund. Executive Director of the Arts Center, Leanne Carter, says the money, which will go towards expansions for their facilities, brings their total raised for the project to $3.4 million. Carter went on to say the expansion became inevitable with the amount of expanded interest in the center in recent years.
We have had so much growth since 2016 and most notably since 2019, partly with so many people moving into the community. We're serving more people. But even before that, we turn away about 50% of inquiries for use of our space. It's such great community use space. It's just we don't have enough of it.
The expansion, with an eye to creating more accessible of a facility, will include a variety of new features. Carter went on to say the Elora Center for the Arts has already completed phase one of their work this past fall, complete with a new parking lot, drainage work, and a new community pavilion. A target has now been set for when to get going on the next phase, and Carter says they have a goal of getting the work done as quickly and efficiently as possible.
Our target is to break ground in the fall of 2024. Ironically, we're kind of not even haven't gone fully public with the fundraising yet. We're still meeting with businesses and individuals that would be part of that core funding before we go public for the last bit. We want to have shovels in the ground fall 2024.
Stating it's incredible to see how far the project has come since 2019, Carter says she and the Elora Center for the Arts plan to continue to serve as a focal point of connection and creative expression for area residents and visitors. I'm Riley Gillespie-Wilson.
And that's it for us for this 100th episode of Viewpoints. We have so many people to thank this week. Our reporters and collaborators, Erica Butler, Bernadine Fox, Aisha Mayan, Ted Evans, Pamela Hassan, Ian Craig, Ryan Hunt, Lauren McKenzie, Scott Onishuk, Ryan Gillespie-Wilson,
Taylor McClure, and Sabrina Spencer, to our national editors Maureen McEwen and Victoria Fenner, but also the entire English team at frequencynews.ca. Some 40 journalists give us their all every week so that we can learn more about their villages, towns, cities, and provinces. All of them believe in journalism, love their community, radio stations, and our gathering place, the website of frequencynews.ca. That's where everything produced is gathered every day. Check them out and follow us on X. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada. A shout out to our team there in Ottawa. I'm Boris Chassagne, your host and producer. Thanks for being with us for this 100th episode. That's it for this week, and until the next, ciao.
You're on the air with Viewpoints.
CKUT present. An evening with Revenge International recording artists, Horse Lords and Colbert. A no Grammy double whammy, chock a block with Sonic Tomfoolery. Live at Sotrania on Saturday, March 16th. Tickets on sale now. For more information, visit www.google.com.
Hi, this is Kylie of Kylie and Dub Incorporated. You listen to CKUT, the greatest and most crucial radio station in all of Montreal, and maybe Canada.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, la mémoire et l'histoire de Louis Riel réhabilité près de 150 ans après qu'il ait été pendu pour trahison. Il est enfin reconnu comme étant le premier ministre de l'histoire de la province du Manitoba.
L'histoire de M. Riel n'est pas finie. Notre histoire comme les Manitobains et Manitobains n'est pas finie. Nous sommes toujours capables d'avancer. Et c'est une histoire que nous sommes en train d'écrire en commun maintenant.
On s'apprête à célébrer la mi-carême dans les provinces atlantiques. On se déguise, transforme notre voix et démarche pour déjouer les gens qui nous connaissent.
Ma plus grosse année était proche de 1200, je pense. Mais ça, c'était comme incroyable. Ça fait casture, je dirais, entre 700 à 800. Mais c'est pas 700 à 800 différentes, mais quand même, il y en a qui viennent 2 et 3 et 4 fois par jour, des fois plus.
La SPCA de Miramichi lance un cri du cœur. 17 des 60 chats qu'hébergent le centre sont décédés d'une épidémie de panleucopénicilline. Et Édith Dumont, la 30e honorable lieutenante gouverneure de l'Ontario, assiste au 36e jeu qui porte son nom.
Ce sont des enfants qui sont pleinement actifs. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, à nous apporter, et c'est réjouissant de les voir dans un contexte où ils semblent très heureux d'être ensemble.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
Merci beaucoup d'être avec nous cette semaine encore. Alors, c'est fait, la mémoire de Louis Riel, né en 1855 et officiellement réhabilité depuis qu'il a été reconnu à l'Assemblée législative de la province comme étant le premier ministre du Manitoba. Le gouvernement du Manitoba a dévoilé le 20 février dernier au palais législatif une mise à jour du portrait de Louis Riel, le reconnaissant donc officiellement comme tel. Un rappel historique pour vous replacer que nous présente l'Encyclopédie canadienne, qui parle du sujet certainement mieux que moi et qui écrit, je cite, « Louis Riel, né en 1844 à Saint-Boniface, était un chef métis, fondateur du Manitoba et le personnage central des rébellions de la Rivière-Rouge et du Nord-Ouest. Saint-Boniface était alors une colonie de la Rivière-Rouge. Alors avec 120 hommes durant ce qu'on appellera la rébellion de la Rivière-Rouge, les métis conduits donc par Louis Riel et leurs alliés des Premières Nations défendent la colonie de la Rivière-Rouge contre les colons blancs et la prise de contrôle de leurs terres par le gouvernement. La rébellion est écrasée à Batoche en mai 1885. Louis Riel sera pendu à Regina pour trahison et les chefs Cree, Big Bear et Poundmaker sont emprisonnés. Il faudra attendre, imaginez, 2019 pour que Poundmaker soit disculpé par le gouvernement fédéral. Eh bien, près de 150 ans plus tard, l'héritage de Louis Riel est officiellement reconnu. Le premier ministre actuel du Manitoba, Wabe Kinew, lui-même devenu le premier ministre provincial du Canada à être membre des Premières Nations, eh bien, s'est tenu aux côtés de David Chartrand, président de la Fédération métisse du Manitoba, pour officialiser cette date qui entrera certainement dans l'histoire. Louis Riel, enfin reconnu comme le premier ministre du Manitoba par le gouvernement de Wabe Kinew. Voici Gaël Mpoyo à Winnipeg, au Manitoba.
Depuis de nombreuses années, le portrait de Louis Riel ornait les murs du palais législatif du Manitoba avec une plaque le désignant simplement comme président. Cependant, suite à l'adoption de la loi sur Louis Riel en 2023, lui accordant le titre de premier ministre du Manitoba, la plaque accompagnant son portrait a été modifiée pour refléter correctement son rôle en tant que premier chef du gouvernement de la province. Se confiant à IGL, le premier ministre du Manitoba a mis de l'avant la vision de Louis Riel.
L'histoire de M. Riel n'est pas finie. Notre histoire comme les Manitobains et Manitobains n'est pas finie. Nous sommes toujours capables d'avancer. Et c'est une histoire que nous sommes en train d'écrire en commun maintenant. Je pense que c'est un message positif et inclusif. C'est-à-dire que M. Riel avait une vision de la Manitoba où tout le monde de beaucoup de différents coins du monde pourrait venir ici pour créer une vie dans une province qui reconnaîtra les droits des langues minoritaires, les droits des autochtones et puis les droits de liberté et d'égalité. Alors, c'est vraiment les principes de notre démocratie contemporaine qui étaient premièrement articulés par M. Riel.
André Carrière, ministre responsable de la langue française à la Fédération métisse du Manitoba, a souligné l'importance historique de cette mise à jour, honorant ainsi Louis Riel et les contributions significatives des Métis de la Rivière-Rouge.
Pour moi, aujourd'hui, c'est une grande occasion de célébration. Finalement, on est chez nous, dans notre maison, ici au Palais législatif, pour reconnaître Louis Riel, son propre titre comme premier ministre du Manitoba. Il faut reconnaître et respecter que les Métis sont ici. Et nous avons toujours aidé aux citoyens, les nouveaux arrivés ici au Manitoba. Louis Riel, il y avait une vision et aujourd'hui, sa vision est réalité.
La journée commémorative s'est ensuite déplacée vers le cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface dans l'après-midi, où David Chartrand, accompagné de sa petite-fille Martha Chartrand, de la vice-présidente de la Fédération de Métis du Manitoba, Denise Thomas, et de Wabe Kinew, premier ministre du Manitoba, ont déposé le texte de la loi sur la tombe du leader Métis. IGL, Gaël Pouillot, Winnipeg.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Les Acadiens de Chéticamp vont sortir leurs déguisements, masques et instruments de musique entre les 3 et 8 mars prochains pour célébrer la mi-carême. L'objectif ultime pour ceux qui vont courir la mi-carême, c'est comme ça qu'on dit, est de ne pas être reconnus par leurs parents, amis et les gens qui les connaissent. Il faut savoir que les mordus de la mi-carême préparent leurs costumes des mois durant. Les coureux revêtent leurs costumes et paradent de maison en maison, tentant de dissimuler leur identité. Les gens doivent deviner qui ils sont. Les mi-carèmes vont changer leur démarche, contrefaire leur voix pour mystifier leurs hôtes. Daniel Aucoin à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse, est en compagnie de Paulette Larade, qui accueille les mi-carèmes chez elle.
Ça fait vraiment longtemps que je watch la mi-carème. Mes parents ont tout le temps watché la mi-carème, puis ils me disent que même comme petite fille, ils m'assisent dessus les mi-carèmes. J'avais jamais eu peur. Ça fait que je vais être obligée de dire que ça fait proche de 58 ans que je watch la mi-carème.
Est-ce que toi, tu as couru la mi-carème?
Je suis pas une coureuse de mi-carême. Je l'ai couru un temps, je la courais comme le dimanche au soir. Dans le temps, je la quittais pas rentrer le dimanche. Mais c'était pas pour moi, parce que si j'arrivais à de maison qui avait des mi-carême, j'avais envie d'aller les deviner. Ben donc, je pensais, si j'avais resté chez nous, il aurait peut-être pas venu moins.
So, 2020, 2021, 2022, tu as dû avoir manqué ça.
J'ai vraiment manqué ça. Oui, vraiment manqué ça. Parce que moi, tant que ça approche le temps de la mi-carême, là, ben, j'ai tous les gras de la peau sortie tant que tu en parles. Ça m'excite de même. Je gourzille.
Qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour la mi-carême? Je suis sûr que tu y passes des semaines et des mois à l'avance.
Oui, ben c'est pas comme si c'était dans la maison. On n'a pas besoin de mettre des cartons partout dans la place pour rien de ça. Premièrement, il faut vider la garage. Ça, c'est la job à Farnan. Puis là, moi, je fais sûr qu'il y a des chaises en masse. Puis je fais mes traites. À tous les jours, je fais des traites. De matin, c'est, je me lève pour faire mes traites pour les mi-carême. Puis je fais sûr qu'il y a quelqu'un qui est pas mal de fun pour venir la watch avec moi. Puis, ouais.
So, des traites, c'est frais du matin.
Oui, frais, frais.
T'es bonne à deviner les mi-carême, paraît-il, hein?
Je sais pas. En vieillissant, puis là, ça fait 2 ans que j'ai pas pratiqué. Ça va tabac faire dur.
Chez vous, il passe à peu près combien de mi-carême de la semaine?
Ma plus grosse année était proche de 1200, je pense. Mais ça, c'était comme incroyable. Ça fait casse-tour, je dirais, entre 700 à 800. Mais c'est pas 700 à 800 différentes mi-carême. Il y en a qui viennent 2, 3 et 4 fois par jour, des fois plus.
C'est le jour, le soir, la nuit?
C'est plutôt le soir. C'est plutôt le soir, oui. Mais j'en vois tout le temps le jour. J'aime tout le temps d'en voir le jour.
Pourquoi c'est important pour toi de célébrer la mi-carême?
Moi, je pense que ça a tout le temps été... C'est comme je sais qu'il y a des mi-carême à Dure, il y a à Terre-Neuve, il y a aux Îles et tout ça, mais je pense que pour la durée, la semaine, je pense que c'est pas mal typique pour Chétiquan. Puis j'aimerais que les jeunes qui viennent pourraient vivre ce que moi j'ai vécu, parce que j'ai une petite fille qui habite à Halifax, puis elle veut s'en venir parce qu'elle s'en avait venue 2 années avant COVID, puis elle aimait vraiment ça. Puis je pense que les jeunes, j'entends dire qu'ils sont vraiment excités de la courir cette année.
So, on sait que le Redman, ça a toujours été, je pense, un gros district pour les mi-carême. À un moment donné, il y avait sur Robert et Marie-Claire. Il y a toujours eu sur Joseph Léo, il y avait Chevaux, il y a sur Roland.
J'appelais ça mi-carême Central.
Ça, tu peux vraiment aller à pied de maison en maison.
Oui, c'est ça. Une histoire comique qu'il y a beaucoup qui savent déjà, c'est que ça, il y a longtemps de ça, on la watchait chez mes parents dans la cuisine, puis ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Puis moi, j'avais un chat, il s'appelait Cookie, puis il était couché sur la chaise, puis un vieux matou, là, puis il dormait. Puis tant que les mi-carême ont rentré, tant que j'ai fermé la porte, moi, j'ai dit « Cookie, lève-toi ». Mais il y avait une madame de Chétiquan que tout le monde connaît comme Cookie, mais moi, je ne savais pas qu'elle était là. Fait qu'elle a salvé, puis elle a dit « Pourquoi si tu m'as connu vite de même? » Fait que ça avait fait ça, ça fait une histoire pas mal comique pour des années à venir après ça.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont courir la mi-carême chez vous?
Oui, puis cette année, j'ai encore plus hâte, parce qu'à ce temps que je fais du travail à l'école, je vais pouvoir les connaître par nom. D'habitude, ils venaient pour voir Mme Dauphine, la bibliothécaire à l'école. Puis j'avais de la misère à deviner qu'est-ce qui les tient, mais à ce stade, je les connais pas mal toutes, ça fait que t'as me dur de les voir.
Qu'est-ce que tu fais pour essayer de deviner les mi-carême?
Faut que je donne toutes mes tricks? Non, c'est pour rien. Il y en a qui disent « Ah, oh, elle a les yeux bleus, elle a les yeux verts ». J'ai jamais, jamais, à part qu'une coupe de mi-carême, que je sais, là, comme Patricia Muse, qui était ici hier, elle, je sais la couleur de ses yeux, mais c'est... Mais je regarde... La shape des yeux, des fois, s'ils veulent me montrer leurs mains. Je regarde même, tant que je vais rouvrir la porte. Là, je suis en fait de dévoiler mes secrets. Là. Mais tant que je vais rouvrir la porte puis que je les watch rentrer, là je pense, oh, tabac, il a oublié de changer le mine. Là. Il ne pense pas que je les regarde. Tu sais, comme des petites affaires de main. J'espère d'en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il y a une de mes meilleures affaires. J'ai tout le temps dit que tant que je peux avoir une mi-carême qui parle presque de son vrai parler, là, je ne peux pas la deviner, là. Ça, c'est comme... Moi, pour moi, c'est comme gagner le 649. C'est comme... Je suis assez excitée. Puis des fois, ils disent « Ben, je vais me démaxer. » Puis je dis « Non, pasteur, donne-moi encore une chance. » Puis ils continuent à parler. Puis ça, ouais.
Es-tu inquiète pour l'avenir de la mi-carême?
Je ne sais pas si que je sais que je ne veux pas être inquiète, mais je me dis que non. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Crois-tu qu'il va en avoir? Puis crois-tu que ça va continuer? » Puis j'ai pas jonglé. J'ai dit « Oui, il va en avoir. » Puis oui, ça va se continuer.
C'était différent aujourd'hui, la mi-carême, que c'était lorsque toi, tu grandissais?
C'est du coup ce que je trouve une affaire, Cognon, c'est qu'il y a beaucoup moins de boissons. Le monde a plus pris la tradition même en considération qu'il y a, genre, courir la mi-carême. Moi, je crois que c'est ça, anyway. Je veux de la place pour les mi-carèmes.
tu peux en accueillir pas mal chez vous.
Oui, je crois qu'il y avait 8 chaises.
Tu les as à côté? Je vais te laisser inviter les gens qui nous écoutent peut-être à aller vous visiter la semaine prochaine.
OK, ben, pour l'amour de Dieu, n'oubliez pas de venir me voir. Je vais avoir des gens avec moi pour m'aider à les deviner. Il va y avoir des traites en masse, puis je serai là du dimanche au vendredi soir, puis c'est anytime, du matin, l'après-midi, le soir.
En tout cas, on va te souhaiter une excellente semaine de la mi-carême à partir de dimanche, et on invite toutes les mi-carême à aller vous voir. Paulette et Fernand au Redman. Paulette Larade, merci beaucoup.
De rien.
Alors, c'est Paulette Larade qui accueille les mi-carême chez eux toute la semaine à partir de dimanche jusqu'à vendredi de la semaine prochaine.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Rien ne va plus à la SPCA de Miramichi. Depuis quelques jours, la SPCA de Miramichi, qui doit composer avec une épidémie de panleucopénie féline. 3 chatons sont décédés en moins de 2 jours, 17 au total. La directrice du refuge, Jennifer Arsenault, réclame une aide d'urgence pour l'organisme. Pour le moment, des protocoles sont en place pour limiter la propagation de la maladie et les adoptions sont suspendues pour 2 semaines, le temps que la situation se stabilise. Aussi connue sous le nom de typhus félin, la maladie provoque une infection fulgurante. Son taux de mortalité atteint les 90 %. La maladie, très contagieuse, est particulièrement dangereuse, évidemment, dans les refuges. Heureusement, un vaccin peut grandement réduire les risques de contracter la maladie. La SPCA de Miramichi a d'ailleurs lancé une levée de fonds pour la soutenir dans ses démarches. Vincent Lavoie a rencontré Jennifer Arsenault, directrice générale de la SPCA de Miramichi.
C'est l'hécatombe à la SPCA de Miramichi. L'organisme sans but lucratif est aux prises avec une épidémie de typhus félin, un virus particulièrement mortel chez les chatons. Tout commence le 22 janvier, lorsqu'un chaton âgé de 4 mois s'est effondré devant les employés du refuge. Un diagnostic a ensuite confirmé le pire des scénarios, un test positif à la panleucopénie féline. Voici Jennifer Arsenault, directrice exécutive de la SPCA de Miramichi.
That morning, everything appeared to be normal, and by the afternoon, the first cat that showed signs was very sick, very quick. So much so that she didn't even make it through the day.
Suite à ce tragique événement, des mesures sanitaires sont mises en place. Les admissions sont suspendues pour au moins 2 semaines et les surfaces sont régulièrement nettoyées. Mais même avec toutes ces mesures, l'épidémie persiste.
It is unfortunately still too early because of the incubation period can be up to 2 weeks or even a little bit longer. So it is still a bit too early to tell.
3 autres chatons succombent à la maladie dans une période de 4 jours. La semaine suivante, c'est une chatte qui finit par perdre toute sa portée à la maladie et elle doit être acheminée chez un vétérinaire au plus vite. Le 6 février, c'est une mère et 3 de ses 6 chatons qui meurent. Depuis, la SPCA a dû réduire ses heures d'ouverture en raison d'une pénurie de personnel. Comme le décrit Mme Arsenault, les répercussions sont énormes envers l'organisme.
Everything comes along with the cost. Extra vet fees, extra supply fees, some extra staffing hours. Now, mind you, the public community in general has been fantastic, donating what they can, and we greatly appreciate that.
Les frais de vétérinaire pour soigner les chats malades ou pour offrir des vaccins ont atteint 5 000 $ en 2 semaines. Un coup dur pour l'organisme qui souffre déjà de sous-financement chronique.
We don't have final numbers back yet from the vet. But we are probably sitting around that number, possibly a little bit higher.
La pression est telle que Mme Arsenault peine à voir la survie de l'organisme à long terme.
Donations have fallen off in different ways. Obviously, adoptions have stopped, surrenders have stopped. So it's a major loss. Many different aspects.
Heureusement, la communauté de Miramichi a organisé plusieurs levées de fonds dont les revenus sont versés à la SPCA. En plus des quelques milliers de dollars, les dons en produits de nettoyage ont permis de garder le navire à flot pour le moment.
We've seen so many different people step forward over the last couple weeks. It's truly remarkable, but yet doesn't surprise us because that's what Miramichi is all about. So it's been really wonderful to see people stepping up and contributing whatever they can. Whether it be a pack of gloves or hundreds of dollars, it's all so very appreciated.
Il faudra noter une absence de nouveaux cas pour au moins 2 semaines afin de considérer le pire de l'épidémie comme chose du passé. Ici Vincent Lavoie. pour IGL à Miramichi.
Les 36e Jeux de la lieutenante gouverneure de l'Ontario viennent de se conclure. Des Jeux qui ont réuni des centaines de jeunes, parmi eux de nombreux élèves et une personnalité de marque, nulle autre, qu'Édith Dumont elle-même, la 30e lieutenante gouverneure de l'Ontario. Ces Jeux sont organisés par le centre sportif et inclusif Variety Village de Toronto et ils ont ceci de particulier, ils accueillent des enfants atteints de handicap, de même que ceux qui n'en ont pas. Ils se retrouvent donc réunis par le sport. Le Ballet national du Canada et l'équipe de hockey des Maple Leafs de Toronto ont accompagné certains des jeunes dans leurs activités. La matinée s'est conclue sur une remise de médailles pour tous les participants et participantes. Voici Marine Autogali.
The Lieutenant Governor Games of Variety Village. It's Friday. It's the weekend.
Édith Dumont, lieutenant-gouverneur, on est aujourd'hui à Scarborough. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'enfants. Que se passe-t-il?
Ce sont les Jeux de la lieutenant-gouverneure pour des enfants, tout petits jusqu'aux adolescents, qui ont un certain handicap. Alors, ce sont des Jeux qui sont très festifs. Ça leur permet de vivre une expérience avec d'autres écoles, de rencontrer des amis, de se faire des nouveaux amis. Et il y a une multitude de partenaires très impressionnants, dont les Maple Leafs, j'ai vu les Grands Ballets du Canada, et qui sont ici et qui animent des ateliers d'activités physiques. Alors, je pense que nous allons être très fatigués dans quelques minutes. Ça fait presque 2 heures qu'on fait des activités ensemble et c'est très réjouissant. Et ça nous donne un sens aussi de la communauté. Ce sont des enfants qui sont pleinement actifs. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, à nous apporter et c'est réjouissant de les voir dans un contexte où ils semblent très heureux d'être ensemble.
C'est votre premier jeu en tant que lieutenant-gouverneur. Pourquoi c'est important pour vous de venir en tant que lieutenant-gouverneur aujourd'hui?
C'est tellement important parce que la diversité, elle s'exprime de plusieurs façons et c'en est une diversité. Et puis pour moi, d'être présente, c'est de démontrer à titre d'Ontarienne et d'Ontarien que nous sommes très inclusifs. Alors, d'avoir des installations sportives de cette envergure hein, qui accueillent des enfants aujourd'hui d'écoles élémentaires et secondaires pour vivre des activités physiques avec leurs professeurs. Il y a des parents, il y a des enseignants, il y a des éducatrices et des éducateurs spécialisés, des professionnels sportifs. Pour moi, ça démontre qu'en Ontario, nous sommes inclusifs, que nous sommes curieux. On est ravis d'être ensemble au-delà de nos différences.
On avait l'impression que le poste de lieutenant-gouverneur, c'était très formel et toujours en costume. Aujourd'hui, vous avez un super T-shirt. Est-ce que toutes les journées sont aussi festives?
Oui. Je dois dire oui, parce que tout est nouveau. Alors, toutes les rencontres sont, me semblent importantes. Je découvre la fonction de lieutenant-gouverneur et je suis absolument ravie.
Cela fait 36 ans de suite qu'on a les Jeux du Lieutenant Governor Games ici à Variety Village.
Stéphane Bialois, gestionnaire pour la sensibilisation des communautés à Variety Village.
Et c'est pour célébrer les jeunes que peut-être n'ont pas l'occasion de jouer sur une équipe ou de jouer un sport. Et c'est une introduction au sport et à Variety Village que même si vous avez des jeunes handicapés, priorité, c'est les jeunes handicapés, mais il y a aussi des jeunes qui sont à la maison qui ne peuvent pas être inclus sur une équipe ou de jouer des sports. Parce qu'il n'y a pas l'expérience avec les centres ou les villes ou les autres programmes qui pourraient inviter ces jeunes à participer. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Jeux du Lieutenant Governor Games? C'est introduire les sports et donner à eux l'occasion de célébrer les jeunes que peut-être n'auront jamais l'occasion de gagner une médaille ou gagner un championnat ou d'être sur une équipe de hockey ou de soccer. Et ça donne eux autres, c'est leur journée qu'ils peuvent célébrer leur championnat.
Comment ça se déroule? Il y a des compétitions, il y a un seul sport qui est joué. À quoi ressemble la matinée de sport?
les sports ici qu'on a aujourd'hui, on avait le basket en fauteuil roulant et on avait du track and field, on avait du golf et du soccer et aussi des activités pour être actif, juste pour danser et pour introduire toutes les possibilités à les jeunes.
On a combien de communautés qui ont rejoint Scarborough? Combien d'enfants sont venus, vous savez?
Je pense que c'est proche de 800. Et ça arrive, oui, c'est toutes les écoles qui ont visité aujourd'hui. Pour chaque année, c'est une grande célébration pour nous, à Variety Village, pour le Lieutenant Governor et pour la communauté des jeunes qui ont des handicapés.
Et demain, ça ressemblera à quoi une fois que les 800 élèves... Vous reprenez l'activité normale?
L'activité normale que n'importe qui peut venir à Variety Village et de participer à des équipes ou au sport où on a la natation. On a aussi des équipes de natation. Si vous voulez visiter pour jouer au basket, vous pouvez faire ça comme un membre ou vous pouvez vous abonner à l'équipe et voyager avec les équipes. Disons, avec notre équipe de basket en fauteuil, nous autres, on voyage à Burlington, on voyage à Kitchener, on voyage à London pour jouer contre eux. Au mois de mai, on s'en va à Montréal au défi sportif. Notre équipe, on a des équipes qui voyagent tout partout. Et c'est un centre inclus que tout le monde, que quand vous entrez à Variety Village, vous avez un sens, ils ont un sens qui rentre à leur maison. C'est à eux, c'est Variety Village. Il n'y a pas de jugement, tout le monde est inclus et tout le monde trouve quelque chose qui leur intéresse ici à Variety Village.
Je suis ici avec l'école Sir William Osler High School.
Gina, accompagnatrice des élèves du lycée.
On est venu pour avoir du plaisir et de l'exercice. Les étudiants adorent venir.
Est-ce que c'est des étudiants qui font du sport d'habitude?
Plus ou moins. Certains, oui, définitivement, mais les autres, pas toujours. Mais on essaie de les envoyer et ils font de leur mieux. Ils se réveillent, disons. À un moment donné, au début, ils sont un peu gênés. Ils nous donnent du temps. C'est merveilleux.
Les élèves, après, ils s'en souviennent. Ils parlent de ce moment, de la médaille qu'ils reçoivent.
La médaille, c'est important, oui.
Thank you very much for coming out. My name is Tom Brown. It's so good to see you. I've enjoyed every moment of it. Have a wonderful weekend. And we'll see you back here for the 37th annual Lieutenant Governor Games. On behalf of Variety Village, have a wonderful weekend. Bye.
C'est Marine à Toronto, en Ontario, et vous écoutez Point de vue.
Vous l'avez peut-être remarqué, ces dernières semaines, il y a des élections dans l'air au Nouveau-Brunswick et nos journalistes commencent à nous en parler. Si tout se passe comme prévu, des élections se tiendront dans cette province le 21 octobre prochain, mais plusieurs estiment que ce calendrier sera devancé. La semaine dernière, Sébastien Caron s'entretenait avec la chef du Parti libéral de la province. Elle lui parlait de la santé comme étant l'une de ses grandes priorités. Idem cette semaine, mais cette fois, on écoutera David Koo, le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick qui discute des siennes avec Jocelyn Hébert à Moncton.
J'ai lancé une petite tournée de province hier à Saint-Jean afin de rencontrer les personnes qui travaillent dans le système et les autres, les patients, etc., de comprendre bien les défis qui existent maintenant. C'est un enjeu qui existe pour un long temps passé maintenant au Nouveau-Brunswick avec le gouvernement maintenant, pendant l'administration de Brian Gallant aussi. Le grand défi pour moi, c'est le système de gestion qui existe maintenant. C'est un système très, très centralisé à Horizon, à Vitalité. Donc, c'est très difficile de mettre en œuvre les solutions locales dans un hôpital ou un centre communautaire de santé. La semaine prochaine, je vais visiter des municipalités dans le comté de Kent, dans la circonscription de Kapakadi-Shediac, et puis Moncton après ça.
Michael Robitaille a aussi rencontré un candidat progressiste conservateur du nord-ouest de la province et même nul autre que le premier ministre lui-même, Blaine Higgs. Tout cela sur fréquenceinfo.ca, fréquenceinfo.ca. Voilà qui complète cette autre édition de Point de vue. Nos journalistes cette semaine, Gaël Mpoyo, Marine Autogali, Jocelyn Hébert, Daniel Aucoin et Vincent Lavoie. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa, Boris Chassagne à l'animation. Des questions, suggestions, commentaires, écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. Restez à l'écoute de l'émission qui nous suit et à la semaine prochaine. Ciao!
Twice.